Tim n'hésita pas. Plus tard, il pourrait se permettre de s'émerveiller, mais pas maintenant. Le vent soufflait plus fort chaque seconde, et s'il ne se pressait pas, il risquait de s'envoler pour s'embrocher sur une branche d'arbre. Le tigre était plus lourd, mais il serait lui aussi tôt ou tard emporté. La clé qui ressemblait à une carte et celle qui ressemblait à un S étaient soudées au collier d'argent. Mais celui-ci était facile à ôter. Une petite pression sur l'ardillon et Tim l'eut entre les mains. Il eut le temps de constater que le tigre emportait un autre, un collier de cuir rose, là où sa fourrure était tombée. Puis il se précipita vers la porte métallique du Dogan. Il leva la carte-clé et l'inséra dans la fente. Rien ne se passa. Il la sortit, la retourna et l'inséra à nouveau. Toujours rien. Une bourrasque glacée le projeta contre la porte, le faisant saigner du nez. Il se ressaisit, retourna de nouveau la carte et fit une nouvelle tentative. Toujours rien. Soudain, il se rappela une remarque de Daria, une remarque datant de 3 jours à peine. Ce Dogan était déconnecté. Il croyait savoir ce que ça signifiait. Le phare au sommet de la tour marchait peut-être, mais l'étincelle qui alimentait le lieu s'était éteinte. Il avait défié le tigre et celui-ci l'avait épargné, mais le Dogan était verrouillé et ils allaient périr tous les deux. C'était la chute de la blague. Et l'homme en noir devait bien rire dans sa planque. Il se retourna et vit que le tigre collait son museau à la boîte métallique. Il lui jeta un regard, puis recommença son manège.
« D'accord, » fit Tim. « Pourquoi pas ?»
Il s'agenouilla tout près du tigre, assez près pour sentir son souffle chaud lui effleurer la joue. Il inséra la clé S. Elle rentra sans problème dans la serrure. L'espace d'un instant, il se revit ouvrant la malle de Kells avec la clé du collecteur. Puis il tourna celle-ci, entendit un déclic et souleva le couvercle. L'espoir revint en lui. Mais plutôt que le salut, il découvrit 3 objets qui lui paraissaient totalement inutiles. Une grande plume blanche, un petit flacon marron et une serviette en coton toute simple, semblable à celle qu'on mettait sur les tables derrière le hall de l'arbre pour le dîner annuel de la moisson. La tempête tournait à l'ouragan et le vent hurlait dans les poutrelles entrecroisées de la tour métallique. La plume jaillit de la boîte, mais avant qu'elle ait pu s'envoler, le tigre tendit le cou pour la cueillir entre ses crocs. Puis, il la donna au petit garçon. Sans vraiment réfléchir à ce qu'il faisait, Tim la prit et la passa à sa ceinture, à côté de la hache de son père. Puis il s'éloigna du Dogan à 4 pattes. S'il finissait embroché par une branche ou embouti sur un tronc d'arbre, ce ne serait certes pas une belle mort, mais ce serait mieux, plus rapide en tout cas, que d'être écrasé contre le Dogan pendant que le vent lui transperçait la peau et lui gelait les entrailles. Le tigre poussa un grondement. Cela lui rappela de nouveau une soie qui se déchire. Tim tourna la tête d'un rien et se retrouva plaqué contre le Dogan. Il lutta pour reprendre son souffle, mais le vent s'engouffrait dans ses narines et dans sa gorge. C'était la serviette que lui tendait à présent le tigre, et comme Tim réussissait enfin à respirer, l'air lui brûlait le gosier en gagnant ses poumons. Il vit quelque chose de fort surprenant. Sai Tigre avait saisi la serviette par un coin et en la dépliant en avait quadruplé la taille. C'est impossible. Sauf qu'il ne pouvait le nier. À moins que ses yeux, d'où coulaient des larmes qui gelaient sur ses joues, ne l'aient trompé. Le tigre ne tenait plus une serviette de table, mais une serviette de bain. Tim tendit la main vers elle. Le tigre ne la lâcha que lorsque le petit garçon l'atteint d'une main ferme. Le vent soufflait si fort que même ce fauve de 600 livres s'ancrait au sol pour ne pas s'envoler. Mais la serviette pendait mollement dans la main de Tim, comme si la tempête s'était calmée. Tim fixa le tigre des yeux. Le tigre lui rendit son regard parfaitement à l'aise dans le pandémonium qui l'entourait. Le petit garçon repensa au seau de fer blanc qui lui avait dispensé des visions comme l'avait fait la bassine d'argent du collecteur. « Dans de bonnes mains, » avait dit ce dernier, « n'importe quel objet peut devenir magique. » Y compris peut-être un humble carré de coton. Celui-ci était toujours plié en deux, à tout le moins. Tim le déplia et la serviette de bain devint une nappe. Il la leva devant lui et bien que l'ouragan continue de souffler de toutes parts, l'air qui le séparait du tissu était parfaitement calme et chaud. Tim saisit des deux mains la serviette devenue nappe, la secoua et voilà qu'elle devint un drap. Ce drap se posa en douceur sur la terre, bien que le vent projette alentour poussière, brindilles et cadavres de rouillot. En frappant la paroi incurvée du dogan, toute cette guna faisait un bruit de grêle. Tim rampa sous le drap puis hésita et se tourna vers les yeux d'émeraude du tigre. Avant de soulever le coin du tissu magique, il laissa son regard s'attarder sur les crocs acérés que le museau du fauve ne parvenait pas à dissimuler.
« Viens, glisse-toi là-dessous, le vent ni le froid ne peuvent y entrer. »« Mais tu le savais déjà, pas vrai, Saï Tigre ?»
Le tigre se coucha, tendit ses griffes admirables et rampa sur le ventre jusqu'à se faufiler sous le drap. Tim eut l'impression qu'un nid de câble lui frôlait le bras lorsque le fauve se mit à l'aise. C'était ses moustaches. Puis son colossal corps velu s'allongea tout près de lui. Il était considérable, ce corps, et une bonne moitié émergeait encore du mince abri de tissu blanc. Tim se redressa, luttant contre le vent qui lui martelait la tête et les épaules, et secoua le drap. Il entendit un claquement comme le tissu se dépliait à nouveau pour devenir aussi grand que la voile d'un bateau. À présent, son ourlet effleurait le pied de la cage. Le monde rugissait, l'air entrait en rage, mais sous la voile, tout n'était que paix. Si l'on ignorait le cœur battant de Tim, bien entendu. Mais lorsqu'il finit par se calmer, le petit garçon entendit un autre cœur, celui du tigre qui palpitait lentement sous ses côtes et qu'accompagnait un sourd grondement. Le tigre ronronnait.
« On est à l'abri, hein ?»
lui demanda Tim. Le tigre le regarda quelques instants, puis ferma les yeux. C'était là une réponse parfaitement suffisante. La nuit vint, et avec elle, le plus fort du coup de givre. Hors du champ protecteur de la magie qui s'était dissimulé sous l'aspect d'une humble serviette de table, le froid ne cessa de croître, encouragé par un vent qui souffla bientôt à plus de 100 roues à l'heure. Les fenêtres du dogan s'ornèrent d'épaisses cataractes de glace. Les arbres de fer qui l'entouraient commencèrent par imploser, puis s'effondrèrent, emportés vers le sud en une nuée meurtrière de branches, d'échardes et de troncs arrachés au sol. Le compagnon de Tim continuait à ronfler à ses côtés, oublieux de tout. Son corps s'étalait à mesure qu'il se détendait, poussant le petit garçon presque en dehors de leur refuge. Alors il se surprit à donner un coup de coude au tigre, comme il l'aurait fait à un ami tirant la couverture à lui. Le fauve gronda et sortit ses griffes, mais il s'écarta un peu.
« Merci, Saï, »
murmura Tim. Une heure après le coucher du soleil, ou peut-être deux, Tim avait perdu toute notion du temps. Un sinistre hurlement se joignit au vacarme du vent. Le tigre ouvrit les yeux. Avec un luxe de précaution, Tim souleva le bord de la voile pour jeter un coup d'œil. La tour surmontant le dogan commençait à plier. Fasciné, il la regarda se transformer en potence. Puis, en un clin d'œil, elle se désintégra. À un instant donné, elle était là. L'instant d'après, le vent emportait un tourbillon de lances d'acier dans un vaste chemin dégagé là où, naguère, s'était dressée une forêt d'arbres de fer.
« Ensuite, ce sera le tour du dogan, » songea Tim.
Mais il se trompait. Le dogan tint bon comme il avait tenu bon durant des millénaires. Jamais il ne devait oublier cette nuit. Une nuit si étrange, si fabuleuse, que jamais non plus il ne put la décrire, ni s'en souvenir avec précision comme nous nous souvenons de notre vie quotidienne. Ce fut grâce à ses rêves qu'il finit par comprendre ce qu'il avait vécu, et il rêva du coup de givre jusqu'à son dernier jour. Et ce n'était pas des cauchemars qu'il faisait, il faisait de beaux rêves, des rêves rassurants. La chaleur régnait sous la voile, et la masse endormie du fauve la faisait encore monter. Tim jeta un coup d'œil au dehors, le temps de voir un trillion d'étoiles scintillant dans le dôme du ciel, bien plus qu'il n'en avait jamais vu de sa vie. On aurait dit que la tempête avait percé des petits trous dans le monde et l'avait changé en tamis. Par-delà étincelait le mystère de la création. De tels spectacles n'étaient sûrement pas pour des yeux humains, mais il était sûr de bénéficier d'une dispense spéciale, car il gisait sous une couverture magique, à côté d'une créature que même les plus crédules des habitants de l'arbre auraient considérée comme mythique. En contemplant ces étoiles, il fut frappé d'une terreur sacrée, mais éprouva également un contentement aussi profond que durable, pareil à celui qui l'habitait enfant, lorsqu'il se réveillait la nuit bien au chaud sous sa couette, encore à demi ensommeillé, écoutant le vent entonner son chant solitaire qui parlait d'autres lieux et d'autres vies.
« Le temps est un trou de serrure, »
songea-t-il en s'abîmant parmi les étoiles.
« Ouais, je le pense. » Il nous arrive parfois de regarder au travers, et le vent que nous sentons alors nous effleurer les joues, ce vent qui est comme une clé, c'est le souffle de tout l'univers vivant.
Le vent rugissait dans le ciel anéanti. Le froid s'accentuait, mais Tim Ross était en paix et bien au chaud, blotti contre un tigre. À un moment donné, il plongea dans un sommeil profond, apaisant et sans rêve. Il se sentit tout petit, volant sur les ailes du vent qui s'insinuait par le trou de serrure du temps. Il partait loin du Grand Canyon, survolait la forêt sans fin et le Fagonard pour se retrouver au-dessus de la piste du bois de fer. Et il aperçut l'arbre, courageux îlot de lumière au cœur de la nuit, avant de filer plus loin encore, oh, beaucoup plus loin. Jusqu'à l'autre bout de l'entre-deux-mondes, là où une gigantesque tour d'ébène se dressait jusqu'au ciel.
Un jour, j'irai là-bas. Ouais, un jour.
Puis le sommeil l'engloutit. Le matin venu, le ululement du vent s'était réduit à une sourde vibration. La vessie de Tim était pleine. Il souleva la voile, rampa sur un sol où désormais perçait la roche nue et fila derrière le Dogan, émettant en respirant des panaches blancs aussitôt emportés par le vent. La masse du bâtiment l'abrita de celui-ci, mais comme il faisait froid, son urine était fumante et, lorsqu'il eut fait ses besoins, la flaque sur le sol commençait à geler. Il rebroussa chemin à toutes jambes, luttant à chaque pas contre le vent et frissonnant de tous ses membres. Lorsqu'il se glissa sous la voile magique, retrouvant son refuge bien chaud, ses dents claquaient à grand bruit. Sans réfléchir à ce qu'il faisait, il étreignit le corps musclé du tigre, connaissant un instant de terreur lorsque ce dernier ouvrit les yeux et la gueule. Il émergea de celle-ci une langue qui lui parut aussi longue qu'un tapis d'escalier et aussi rose qu'une rose de la nouvelle terre. Elle lui lécha la joue, et Tim frissonna une nouvelle fois, pas de peur, mais de nostalgie. Cela lui rappelait son père l'embrassant le matin avant de remplir une cuvette pour se raser. Contrairement à son associé, il refusait de se laisser pousser la barbe, cela ne lui irait pas. Disait-il. Le tigre baissa la tête pour renifler le col de sa chemise. Tim gloussa comme il le chatouillait avec ses moustaches, puis il se rappela les deux derniers Popkins.
« On va se les partager, » dit-il. « Mais je sais aussi bien que toi que tu pourrais les avaler toutes les deux si tu en avais envie. »
Il donna une Popkin au tigre. Elle disparut aussitôt, mais le fauve se contenta de regarder Tim lorsqu'il mangea l'autre. Il évita de lambiner au cas où Sa et Tigre auraient changé d'avis, puis il rabattit la voile sur lui et se rendormit. Lorsqu'il se réveilla de nouveau, il devait être midi. Le vent s'était bien calmé et en sortant la tête de sous la voile, il constata que l'atmosphère s'était réchauffée. Cela dit, l'ersatz d'été dont la veuve Smack s'était méfiée à juste titre appartenait au passé, ainsi que ses provisions de bouche.
« Que mangeais-tu dans ta cage ? »
demanda-t-il au tigre. Cette question le conduisit tout naturellement à la suivante.
« Et combien de temps y es-tu resté ?»
Le tigre se leva, fit quelques pas vers la cage en question et s'étira, une patte postérieure, puis l'autre. Il se dirigea vers le précipice et s'accroupit au bord du grand canyon pour faire ses besoins. Cela fait, il renifla les barreaux de sa prison, puis se détourna de celle-ci, comme si elle avait cessé de l'intéresser, et revint auprès de Tim, qui continuait de l'observer, appuyé sur ses coudes. Le fauve le gratifia d'un regard sombre. Telle fut du moins son impression, puis détourna ses yeux verts, baissa la tête, et du bout du museau releva la voile magique qui les avait protégés du coup de givre. La boîte métallique apparut à la vue. Tim ne se rappelait pas l'avoir ramassée, mais il avait dû le faire. Si elle était restée devant la porte, le vent l'aurait détruite ou emportée. Cela lui rappela la plume. Elle était toujours passée à sa ceinture. Il l'attrapa pour l'examiner avec attention, la caressant doucement. Ce devait être une plume de faucon, un faucon deux fois plus grand que la normale, et blanc de surcroît, ce qu'il n'avait jamais vu.
« C'est une plume d'aigle, n'est-ce pas ? »
demanda-t-il.
« Par le sang de Gan, ça oui !»
Le tigre semblait indifférent à cette plume, alors qu'il avait bien veillé à l'arracher aux griffes du vent. De son long museau duveté de jaune, il poussa la boîte vers Tim, puis il le fixa des yeux. Tim ouvrit la boîte. Il ne s'y trouvait plus que le flacon marron qui, de par son aspect, devait contenir un médicament. Il l'attrapa et sentit aussitôt des fourmis dans ses doigts, comme lorsqu'il avait brandi la baguette du collecteur au-dessus du seau en fer blanc.
« Est-ce que je dois l'ouvrir ? Car tu ne le peux pas, c'est évident. »
Le tigre demeura immobile, ses yeux verts rivés au flacon. On les aurait dit éclairés d'une lueur intérieure, comme si son cerveau irradiait la magie. Avec un luxe de précaution, Tim dévissa la capsule. En l'ôtant, il vit qu'un compte-goutte y était fixé. Le tigre ouvrit sa gueule. Sa volonté était claire et cependant...
« Combien de gouttes ?»
demanda Tim.
« Pour rien au monde, je ne voudrais t'empoisonner. »
Le tigre se contenta d'écarter un peu plus les mâchoires, évoquant irrésistiblement un oisillon attendant la béquée. Après quelques tâtonnements, jamais il n'avait utilisé de compte-gouttes, quoiqu'il ait vu Destri se servir d'un modèle plus perfectionné avec ses bêtes. Tim réussit à aspirer du liquide. Du coup, le flacon se retrouva presque vide. Le cœur battant, il tendit le compte-goutte au-dessus de la gueule du tigre. Il pensait savoir ce qui allait suivre, car il connaissait quantité de légendes sur les garous. Mais il n'avait aucun moyen de savoir si le fauve était un homme métamorphosé.
« Je vais procéder goutte par goutte, » dit-il au tigre. « Si tu veux que j'arrête, tu n'as qu'à refermer ta gueule. Hoche la tête si tu as compris. »
Mais, comme précédemment, le tigre ne laissa rien trahir. Il se contenta d'attendre. Une goutte, deux, trois, le petit tube se vidait, quatre, cinq. Soudain, la peau du tigre s'enfla et ondoya, comme si des souris captives cherchaient à s'en extirper. Son museau se désintégra pour révéler ses crocs, puis se reconstitua jusqu'à sceller sa gueule. Alors il poussa un rugissement étouffé, de souffrance ou d'indignation, un rugissement qui fit trembler la clairière. Tim se carapata, terrorisé. Les yeux d'émeraude du fauve s'exorbitèrent comme montés sur ressort. Sa queue convulsive se rétracta, se déploya, se rétracta encore. Il se dirigea en titubant vers le précipice du Grand Canyon.
« Arrête !»
hurla Tim. « Tu vas tomber !» Le tigre se retrouva suspendu au bord de l'abîme, et l'une de ses pattes délogea un caillou de la falaise. Puis il passa derrière la cage qui l'avait piégée et ses rayures frémirent avant de s'estomper. Sa tête aussi changeait de forme. Il en émergea du blanc, puis du jaune vif là où s'était trouvé son museau. Tim entendit un bruit de meuleuse, comme si son squelette se reconfigurait. Derrière la cage, le tigre poussa un rugissement qui se transforma en un cri des plus humains. La créature floue et mouvante se dressa sur ses pattes postérieures et, en lieu et place de ses coussinets, Tim vit d'antiques bottes noires. Et ses griffes devinrent des sigles argentés. Lune, croix et spirale. L'occiput du tigre continua de croître jusqu'à devenir le chapeau pointu que Tim avait vu dans le seau. Son menton blanc crut pour se transformer en barbe étincelante de givre sous la caresse glaciale du soleil. On l'aurait dit riche de rubis, d'émeraudes, de saphirs et de diamants. Puis le tigre disparut et Merlin de l'Elde apparut dans toute sa majesté devant le petit garçon émerveillé. Il ne souriait pas. Alors qu'il souriait dans la vision qu'en avait eue Tim, sauf qu'il ne s'agissait pas de sa vision. C'était un glam du collecteur, conçu pour le conduire à sa perte. Le vrai Merlin le gratifiait d'un regard plein de gentillesse, mais aussi de gravité. Le vent faisait claquer sa robe de soie blanche, révélant les contours d'un corps si émacié qu'on aurait dit un squelette. Tim mit un genou à terre, inclina la tête et porta à son front un poing tremblant. Il tenta de dire « Heil Merlin », mais il avait perdu sa voix et ne réussit à émettre qu'un croassement. « Relève-toi, Tim, fils de Jack », dit le mage. « Mais avant cela, referme le flacon. Il y reste quelques gouttes, j'intuite, et elles te seront fort utiles. » Tim leva des yeux interrogateurs sur la haute silhouette campée près de la cage où elle avait été emprisonnée.
« Pour ta mère, » ajouta Merlin, « pour les yeux de ta mère. »«
Tu dis vrai ?»
murmura Tim.
« Aussi vrai que la tortue qui porte le monde. Tu as fait un long chemin, tu t'es montré très brave. » Et aussi un peu stupide, mais passons, car cela va souvent de pair, en particulier chez les jeunes gens. Et tu m'as libéré d'une forme dans laquelle j'étais longtemps resté piégé. Pour cela, tu as droit à une récompense. Rebouche le flacon et relève-toi.
Grand merci,
fit Tim. Il avait les mains tremblantes et les yeux brouillés de larmes, mais il réussit à revisser la capsule sans perdre une goutte du flacon.
« Je croyais que vous étiez le gardien du rayon, ça oui, mais Daria m'a détrompé. »«
Et qui est donc cette Daria ?»«
Une captive comme vous, prisonnière d'une petite machine que m'avaient donnée les habitants du Fagonar. Je crois bien qu'elle est morte. »
« J'en suis désolé, mon garçon. »«
C'était mon ami, »
ajouta Tim.
Merlin hocha la tête. « C'est un triste monde que celui-ci, Tim Ross. Quant à moi, comme ce rayon est celui du lion, il a jugé fort drôle de m'imposer la forme d'un félin. Mais pas celle d'Aslan, oh non !» car c'eût été une magie hors de sa portée, quoi qu'il en dit. Pourtant, il aurait bien aimé pouvoir tuer Aslan et tous les autres gardiens afin d'abattre les rayons.
« Le collecteur, »
murmura Tim. Rejetant la tête en arrière, Merlin partit d'un grand rire. Son chapeau pointu resta en place, ce qui aux yeux de Tim était le comble de la magie.
Non, non, celui-là n'y est pour rien. Une longue vie et un peu de magie, c'est tout ce qu'il peut faire. Non, Tim, il est un être plus puissant que l'homme à la large cape. Quand le grandiose pointe le doigt sur lui, la large cape prend ses jambes à son cou. Ce n'est pas le roi rouge qui a eu l'idée de t'envoyer ici, et celui que tu appelles le collecteur paiera pour sa bêtise, je crois bien. Il est trop précieux pour qu'on le tue, mais on ne manquera pas de le châtier. Si fait à n'en point douter.
Que va-t-il lui faire, ce roi rouge ?
Mieux vaut ne pas s'y attarder. Mais une chose est sûre, on ne le verra plus jamais à l'arbre. C'en est fini de sa collecte d'impôts.
Et ma mère, va-t-elle recouvrer la vue ?
Si fait, car tu m'as bien servi. Et tu en serviras bien d'autres dans ta vie. Il désigna la ceinture de Tim. Cette arme n'est que la première de celles que tu porteras, la première et la plus légère. Tim considéra le quatre coups passé à sa ceinture, mais ce fut la hache de son père qu'il saisit.
Non, le pistolet, ce n'est pas pour les gens comme moi, Sai. Je suis qu'un gars de la campagne, et je serai bûcheron comme mon père. L'arbre est mon village, et j'y demeurerai.
Le vieux mage lui adressa un regard entendu. « C'est ce que tu dis en tenant cette hache. Mais que dirais-tu en tenant ce pistolet ? Et surtout, que dirait ton cœur ? Ne réponds pas, car la vérité se lit dans tes yeux. Le cas t'emmènera bien loin de l'arbre. »«
Mais j'aime mon village, »
murmura Tim. « Si fait. » Et tu y resteras encore un temps, alors ne t'inquiète pas, mais entends et obéis. » Il se plaqua les mains sur les genoux et pencha son corps étique au-dessus du petit garçon. Le vent agitait faiblement sa barbe, faisant étinceler les joyaux qui l'ornaient. Son visage, quoique aussi émacié que celui du collecteur, respirait la gravité plutôt que la malice, la gentillesse plutôt que la cruauté. Quand tu retourneras dans ton cottage, à l'issue d'un périple plus rapide que celui qui t'a mené ici et aussi moins risqué, tu iras voir ta mère pour mettre dans ses yeux les dernières gouttes du flacon. Ensuite, tu lui donneras la hache de ton père. Tu as bien compris. Sa pièce, tu la porteras durant toute ta vie. Quand on te mettra en terre, tu l'auras toujours pendu à ton cou. Mais donne la hache à ta mère, et sans tarder.
Pourquoi ?
Le front de Merlin se plissa un peu plus. Sa bouche se fit plus amère encore. Soudain, toute gentillesse disparut de ses traits pour être remplacée par une terrifiante volonté. Il ne t'appartient pas de le demander, mon garçon. Quand vient le cas, il vient comme le vent, comme le coup de givre. Obéiras-tu ?
Oui,
répondit Tim un peu effrayé.
Je lui donnerai la hache de mon père.
Bien. Le mage se tourna vers la voile sous laquelle tous deux avaient dormi et leva les mains. Le bord le plus proche de la cage se souleva en claquant, puis la voile se plia, devenant soudain deux fois plus petite. Elle se plia une nouvelle fois, se transformant en simple nappe. Les femmes de l'arbre goûteraient sûrement ce genre de magie pour faire leur ménage, songea Tim. Et il se demanda si cette idée tenait du blasphème. « Non, non, tu as sûrement raison, » dit Merlin d'un air absent. Sauf que ça marcherait forcément de travers. Même pour un vieux briscard comme moi, la magie recèle toujours son lot de surprises.
Sai, c'est vrai que vous vivez à rebours du temps ?
Merlin leva les mains en signe d'agacement amusé. En se retroussant, ses manches révélèrent des bras aussi grêles, aussi blancs que les branches d'un bouleau. C'est ce que pense tout le monde. Et si j'affirmais le contraire, personne ne me croirait, n'est-ce pas ? Je vis comme je vis, Tim. et à dire vrai, je me suis plus ou moins retiré des affaires. Est-ce qu'on t'a aussi parlé de ma maison magique perdue dans la forêt ?
Si fait.
Et si je te disais que je vis en fait dans une grotte, avec pour seul mobilier une table et une paillasse ? Et si tu le répétais autour de toi, penses-tu que les gens te croiraient ? Tim réfléchit puis secoua la tête.
Non, d'ailleurs, jamais ils ne croiraient que je vous ai rencontré.
Tant pis pour eux. Revenons à toi. Es-tu prêt à repartir ?
Puis-je encore vous poser une question ?
Le mage leva l'index. Oui, mais une seule. Car je me suis langui des années dans cette cage, qui n'a pas bougé d'un pouce en dépit du vent, ainsi que tu peux le constater. Et je me suis lassé de chier dans ce trou. La vie simple, ça va bien un moment, mais il y a des limites. Pose ta question.
Comment le roi rouge a-t-il pu vous capturer ?
Il ne peut capturer personne, Tim. Lui-même est un captif en haut de la tour sombre. Mais il possède certains pouvoirs, oui, là, et certains émissaires. Celui qui a croisé ta route n'est pas le plus puissant, loin de là. Un homme est venu me voir dans ma grotte. Je l'ai pris pour un inoffensif colporteur, car sa magie était puissante. Une magie dont l'avait investi le roi, comme tu l'as sans doute intuité. Tim risqua une autre question.
Une magie plus puissante que la vôtre ?
Non, mais... Merlin poussa un soupir et contempla le ciel matinal. À son grand étonnement, Tim vit que le magicien avait honte. J'étais ivre, lâcha-t-il.
Oh !
Fit Tim d'une petite voix. Il n'y avait rien d'autre à dire. « Assez palabré !» dit le mage. « Assieds-toi sur le dibine. »
« Le quoi ?»
D'un geste, Merlin désigna la serviette devenue voile, qui avait à présent retrouvé la taille d'une nappe. « Ce truc-là, n'aie pas peur de le salir, il a été foulé par des bottes encore plus crottées que les tiennes. » Tim, qui craignait précisément cela, s'avança sur la nappe et s'y assit. « Maintenant, la plume, serre-la fort. Elle vient de la queue de Garuda, l'aigle qui garde l'autre bout de ce rayon. C'est du moins ce que l'on m'a dit quand j'étais aussi petit que toi. Eh oui, que dis-tu de cela, Tim, fils de Jack ? On m'a également raconté que les bébés naissaient dans les choux. Ce fut à peine si Tim l'entendit. Il prit la plume que le tigre avait empêchée de s'envoler et la tint fermement. Merlin le fixa un moment sous le rebord de son chapeau jaune. « Une fois arrivé chez toi, quelle est la première chose que tu feras ?»«
Je mettrai des gouttes dans les yeux de Mama. »«
Bien. Et la seconde ?»«
Je lui donnerai la hache de mon pas. »«
Surtout, n'oublie pas. » Le vieil homme se pencha sur lui pour déposer un baiser sur son front, et l'espace d'un instant, le monde tout entier brilla aux yeux de Tim avec autant d'éclat que les étoiles au plus fort du coup de givre. L'espace d'un instant, tout était là. « Tu es un bon garçon, et tu as un brave cœur, et c'est ainsi que l'on t'appellera. Maintenant, pars avec toute ma reconnaissance et vole jusqu'à chez toi.
Voler ? Mais comment ?
Comment t'y prends-tu pour marcher ? Contente-toi d'y penser, de penser à chez toi. Le vieil homme se fendit d'un sourire radieux qui fit naître mille fines rides au coin de ses yeux. Car ainsi que l'a jadis affirmé quelqu'un de célèbre, rien ne vaut son chez-soi. Vois-le. Vois-le très bien. Alors Tim pensa au cottage où il avait grandi et à la chambre où il s'endormait chaque soir en écoutant le vent au dehors qui lui parlait d'autres lieux et d'autres gens. Il pensa à la grange où dormaient Misty et Bitsy et espéra que quelqu'un les avait nourris. Où il aime les blés, peut-être.
Il pensa à ce printemps où il avait rempli plein de seaux d'eau. Il pensa surtout à sa mère, son corps bien charpenté, aux larges épaules, ses cheveux châtains, ses yeux rieurs, si rieurs avant que ne soient venus le chagrin et les soucis.
« Comme tu me manques, maman !»
pensa-t-il. Et alors qu'il pensait cela, la nappe s'éleva au-dessus de la roche et plana sur son ombre. Tim poussa un hoquet. La nappe frémit puis vira sur elle-même. Il était maintenant plus haut que le chapeau pointu de Merlin, et ce dernier dut lever les yeux vers lui.
« Et si je tombe ?»
s'écria Tim. Merlin s'esclaffa.
« Tôt ou tard, c'est notre lot à tous.
Accroche-toi à la plume. Le Dibin ne t'abandonnera pas tant que tu tiendras la plume et penseras à ton chez-toi. » Tim serra la plume entre ses doigts et pensa très fort à l'arbre. La grand-rue, la forge avec la chapelle funéraire derrière, le cimetière, les fermes, la scierie au bord de la rivière, le cottage de la veuve et, plus important que tout, son lopin et sa place. Le Dibin s'éleva encore, resta un moment immobile au-dessus du Dogan, comme s'il attendait de se décider, puis vola vers le sud dans le sillage du coup de givre. Il avançait à faible allure, mais lorsque son ombre courut parmi les chablis festonnés de gel à quoi se réduisait désormais l'immense forêt, il commença à prendre de la vitesse. Une horrible idée vint à Tim. Et si le coup de givre avait frappé l'arbre, le gelant et tuant tous ses habitants, y compris Nell Ross? Il se retourna pour poser la question à Merlin, mais celui-ci avait déjà disparu. Tim le revit plus tard, mais lui aussi était alors un vieillard. Et cette histoire-là est pour un autre jour.